Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis qui? Je suis Ringside, comme d'habitude. Et on va parler aujourd'hui, comme toutes les semaines, dans le podcast officiel des Cahiers du Catch de Monday Night Raw. Alors, tout d'abord, sachez que toute l'équipe de Catch Up se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux pour cette année 2017. Donc une année qui s'annonce déjà passionnante pour notre sport spectacle préféré. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette exploration de l'univers de la WWE, une belle brochette de spécialistes. À ma droite, le joyau caché de Ketchup, l'amiral Armbar.
Salut,
comment vas-tu,
Inside,
amiral?
Salut tout le monde. Bah nickel, et puis bah welcome au premier Raw de l'année.
Exactement. Et à ma gauche, l'homme que la médiocrité a oublié, Hank. Comment vas-tu, Hank?
Ça a commencé très bizarrement, merci.
Oui, c'est moi.
C'est moi. Merci, merci de présenter. Aujourd'hui, tu prends presque le relais. Maintenant, je préfère entendre ta présentation que entendre la mienne. Et pourtant, je suis sacrément égocentrique.
Mm-hmm. Alors wow. Ça, c'est un joli compliment.
T'es un fan.
Je suis tout ému. Voilà, on vous espère que l'émission de la semaine dernière, qui était exceptionnellement en vidéo, vous a plu, et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes.
Et d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires et retours sur l'émission, ça fait plaisir de faire ça, c'était très cool à faire. Donc...
Je disais de te couper, Armbar, donc vas-y. J'ai les noms sous les yeux, alors je remercie tous ceux qui ont commenté donc, sur la vidéo des Catch Up Awards. Donc Joey Rudy qui dit merci les gars pour cette vidéo et cette première année de Catch Up, donc merci beaucoup de nous suivre. Camille Bourg, l'éternel, du coup pareil, donc il donne un peu ses choix d'award. Il y a Bartaba en deux mots qui a repéré l'amiral Armbar, donc il le connaît de ses web-séries. Et puis Aurélien Pichon qui nous dit merci pour ces podcasts hebdomadaires agréables à écouter, tout ça. Je vais pas les lire en entier, je suis désolé parce qu'on n'a pas trop le temps, on essaie de tenir une heure, mais on vous remercie beaucoup pour vos petits messages sympathiques pour la fin d'année.
Un grand merci. Allez, on va attaquer le Monday Night Raw. Donc c'est le Raw du 2 décembre 2017 qui se passait à Tampa en Floride. Tampa, une ville dont l'économie repose sur l'exploitation du phosphate ainsi que sur la pêche et le tourisme. C'est Mick Foley qui ouvre Monday Night Raw cette semaine. Un Mick Foley tout propre, il est rasé de près, il a coupé les cheveux, taillé la barbe. Et il nous explique qu'il décrira désormais le nom des villes dans lesquelles se déroule Monday Night Raw sur sa main. Comme ça, il évitera de faire des erreurs comme il l'a fait il y a 2 semaines à peu près. Il nous fait une petite blague en se trompant tout de suite sur la ville, mais c'est pas bien grave, c'est pour l'humour. Donc il nous rappelle qu'il y aura un affrontement entre Kevin Owens, le champion de l'univers, et Roman Reigns au Royal Rumble. Il nous rappelle qu'il y aura Chris Jericho qui sera dans une cage attachée au-dessus du ring pour éviter toute interférence. Là-dessus, évidemment, les teams Jericho débarquent. Kevin Owens et Chris Jericho. Alors, on attaque tout de suite Mick Foley. Chris Jericho nous fait des rappels de sa petite phrase sur le fait qu'il sera attaché en haut, là, suspendu en l'air comme une sexy piñata. On se moque de la coiffure de Foley. On l'accuse de despotisme sur l'émission. On lâche plusieurs preuves. Par exemple, un match cadeau qui a été offert encore une fois à Roman Reigns. Pas de répercussions non plus sur contre Seth Rollins qui a tabassé Y2J dans un parking il y a quelques semaines. Même Mick Foley explique que on entre dans une nouvelle année, donc va y avoir du changement, et notamment pour cette émission l'inauguration du Kevin Owens Show, c'est-à-dire un segment qui sera tenu par Kevin Owens, qui fera l'intervieweur et qui recevra des stars, un peu à l'image de Miss TV par exemple. Parce que Kevin Owens annonce toujours que Monday Night Raw c'est le Kevin Owens Show, ce soir on va voir comment que ça se passe. Et le premier invité, c'est pas n'importe qui, ce sera Goldberg. Alors Kevin Owens il lâche un peu quelles questions on pourrait poser à Goldberg, par exemple, où il était passé depuis ses 10 ans, et puis aussi qu'est-ce qu'il y en a quelque chose à foutre de où il était passé depuis ses 10 ans, ça peut être deux questions qui peuvent être posées. Là-dessus évidemment, Stéphanie arrive. pour défendre Mick Foley, hein, encore un peu plus. Alors, elle nous parle un peu des vacances compromises de Foley, parce que normalement, il n'aurait pas dû être là en fin d'année, puis finalement, il a dû venir quand même. Là-dessus, comme tout téléspectateur moyen, Kevin Owens s'énerve. Hein, dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre des vacances de Foley? On n'est pas là pour parler de ça. Stéphanie nous annonce que ce soir, il y aura un match entre Roman Reigns et Y2J, à nouveau pour la ceinture US. Alors là-dessus, tout de suite, Kevin Owens explique qu'il risque d'y avoir des interférences de Seth Rollins, c'est pas très cool. Donc, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que déjà, si Roman Reigns, il est disqualifié ou s'il est compté à l'extérieur du ring, il perd la ceinture. C'est obligé qu'il y ait un gagnant ce soir. Et d'autre part, il y aura un match en début de soirée entre Kevin Owens et Seth Rollins, sachant que le perdant de ce match sera banni des apports du ring pour le championnat US de ce soir. Et Stéphanie s'énerve aussi à un moment donné où elle explique que les ratings de SmackDown Live ont dépassé ceux de Raw, puis la première fois depuis bien des années. Donc là-dessus, elle était vraiment pas contente et ils ont intérêt tous à faire leurs preuves dans l'émission qui va suivre. Voilà, et après on va partir donc sur le match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet opener? Je donne la parole à Hank.
C'était pas mal.
Merci.
C'était pas pire que les dernières semaines, mais en même temps, on se retrouve aussi. Par définition, avec des matchs qu'on a déjà vus ou qu'on a déjà vus peut-être en tag team. Enfin, on a déjà vu les gens s'affronter deux ou trois fois en tag team ou machin, etc. Et donc, du coup, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait de l'enjeu et je croyais qu'il allait y avoir une bonne nouvelle à la fin de ce Raw. Et bon, cette bonne nouvelle n'est pas arrivée. Mais je ne dis pas quoi. À part Mick Foley qui était dans les choux total et je sais pas s'il est fait pour être GM. Hein, vraiment, il est tellement pas bon au micro. C'est juste. Peut-être qu'il était. Alors moi, je n'étais pas là pendant l'attitude era et tout ça. Peut-être qu'il était. Il était plus forcément marrant en personnage de catch ou plus il maîtrisait plus sa folie, etc. Mais là, il est vraiment perdu quoi. Quand il parle, on a même plus l'impression que c'est son personnage qui est censé être faible vis-à-vis de Stéphanie. On a vraiment l'impression que c'est lui hein, en fait. Il a juste pas de confiance, hein, pas de confiance en lui.
Il doit se faire remplacer la hanche.
Il a encore une opération, d'accord.
Il est en souffrance en fait, donc il est sous médoc.
D'accord.
Ça se voit quand il se déplace.
Je l'ai trouvé vieilli aussi un peu.
Il marche difficilement. Quand il monte sur le ring, il tient toujours une de ses jambes pour la faire monter aussi, donc il a des problèmes physiques. Sa carrière, il la paye. Ça se voit en promo ce soir-là, c'était flagrant, ouais.
Mais à ce moment-là, le ramenait pas, quoi. Enfin, le mettait pas. Attends, Stéphanie, elle s'est déjà tapé des semaines où elle était toute seule. Pourquoi le ramener là maintenant?
Ça fait presque Stéphanie qui est la vilaine princesse sorcière avec son serviteur un peu bossu, Mick Foley, quoi. C'est un peu spécial, quoi. Donc, je sais pas pourquoi il prend pas le temps de pouvoir faire l'opération qu'il doit faire et se soigner et prendre un peu de temps off la télévision. C'est un peu choquant, surtout qu'en plus il y avait l'énergie sur ring quoi. Kevin Owens était à fond, Jericho aussi, Stéphanie aussi, et il y avait Mick Foley qui était tout rabougri dans un coin. C'est un peu triste.
Ouais, et donc voilà. Et puis on va dire la grosse bonne note comme d'habitude, c'est dès que Kevin Owens et Jericho, enfin surtout Jericho, mais les deux dès qu'ils commencent à parler et puis à rebondir l'un sur l'autre sur ce qu'ils disent, bon c'est toujours drôle. Donc du coup ça rend n'importe quel segment potable. Mais donc voilà. Et là pour le coup il y avait pour moi le seul intérêt, oui, c'était la stipulation c'était le fait qu'il y avait un match pour le titre US et la stipulation qui pour une fois n'est pas à l'avantage de Roman Reigns. Donc voilà, c'était le, on va dire, la grosse nouvelle de ce segment. Le reste, bon, les trucs genre oui alors si tu perds tu peux pas être ringside match en gros. Je...
Oui, c'est toujours un petit peu tiré par les cheveux, pas forcément passionnant. Et puis, puis encore, voilà, c'est Fanny Mackman qui débarque, les GM. On peut faire, on peut envisager une émission sans GM, hein, quand même. Hein. Ça pourrait se faire un jour.
Mais c'est là que des moments au début de, quand t'as un début de Raw comme ça, et que tu dis à chaque fois, c'est encore cette semaine, il y a un GM qui arrive et le deuxième GM qui arrive, machin. Tu te dis mais. Je crois que j'ai pas maté le dernier SmackDown, le SmackDown de la semaine dernière où j'ai regardé que des bouts, donc du coup j'ai pas regardé le début, mais j'ai le souvenir que quasiment tous les SmackDown, à part peut-être un ou deux où Bryan devait faire une annonce, mais sinon tous les SmackDown depuis le début, là ils commencent pas avec les GM, non. Ou alors les GM sont pas dans le stade, ils sont juste en train de regarder un écran, parler vite fait, ça dure 30 secondes.
Ouais. Oui, mais je pense c'est une marque de Raw en fait. Hein. Ils essaient un peu de différencier les deux émissions par des petites choses de réalisation. Je pense qu'une des traits de marque de Raw, c'est de faire intervenir, peut-être commencer avec le GM ou le commissionneur qui vient annoncer un peu le programme de la soirée. comparé à SmackDown, où c'est plus généralement les superstars qui vont effectivement faire l'intro.
Le truc, c'est que ça donne pas l'impression de différence parce que Raw est comme ça depuis que je le regarde quasiment.
Ouais, mais du coup, parce que c'est justement la marque d'Euro, c'est la marque de fabrique d'Euro. Quand il y a eu le brand split, ils ont l'intérêt de faire deux émissions distinctes. Ils avaient à reconstruire une nouvelle identité pour SmackDown, mais ils se sont contentés de garder celle qu'ils avaient pour eux. Pour eux, ils n'ont pas changé la formule.
Ils avaient besoin de deux nouvelles idées et ils n'en ont eu qu'une. Quoi.
Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais.
Alors en parlant de manque d'idées, eh ben, on va enchaîner sur le match qui est une opposition entre Kevin Owens et Seth Rollins, hein, du jamais vu. Alors en début de match, Rollins enchaîne les Somerset Plancha, mais Kevin Owens réussit à prendre l'avantage à l'extérieur du ring. Une fois revenu au centre du ring, Rollins va surprendre Owens avec un top prop jumping neckbreaker. Le champion reprend l'avantage pendant la coupure pub grâce à un violent DDT. Un surpassement va plus tard envoyer Rollins par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, où il va esquiver un cannonball dans la barrière d'insécurité. De retour dans le ring, Rollins contre une pop-up powerbomb et place à Inzugiri. On bascule encore une fois à l'extérieur du ring. On envoie Owens dans la Timekeeper Arena. Mais le champion répond en assommant Rollins avec la cloche. Du coup, disqualification de Kevin Owens, hein, parce que c'était sous les yeux de l'arbitre. Victoire de Rollins. Écoutez.
Et réaction Owens... improbable de Kevin Owens aussi. Hein.
Ah ouais, ouais, ouais.
Réaction totalement improbable. Le gars, on lui dit.
Comment ça?
On lui dit.
Mais non, j'ai rien fait. L'arbitre était à 2 mètres.
On lui dit le perdant, quelles que soient les conditions, le perdant, enfin, disqualification, machin, a pas le droit à être ringside pour le match d'après. Et le gars, tout ce qu'il fait, c'est ah tiens, si je prenais une cloche. Puis après, non seulement le fait qu'ils prennent la cloche et qu'ils commencent à attaquer, bon, c'est con, mais juste après, oh, je suis disqualifié. Non mais c'est scandaleux, mais pourquoi c'est scandaleux? Mais t'es. Je sais pas, on a l'impression qu'il a oublié les règles. Enfin, j'allais dire, les règles du catch, elles sont très extensibles selon les moments, mais là, il a vraiment, genre, il était à l'ouest. Hein. Je sais pas pourquoi il s'est scandalisé.
Il a été poussé dans ses derniers retranchements par Rollins. Donc voilà.
Par un booker ou un scénariste qui a écrit le truc. Hein. Ils m'ont demandé de jouer ça parce que bon, Kevin Owens il a fait des matchs plus qu'il n'en faut pour savoir que ça marche pas ce genre de truc. Enfin, qu'on les gens le notent. Donc j'imagine mal que ce soit lui qui a été surnommé Mr. Wrestling sur internet, puisse se dire ok, ça va être cool de faire ça. C'est une bonne idée. Non, je sais pas. Alors c'est un gros second degré, mais.
Ouais, je pense qu'il fait avec ce qu'on lui donne, hein, Kevin Owens en ce moment.
Ouais.
Alors, beaucoup de trash talk hein, dans le match, encore une fois, de son côté.
Et on voit
qu'il essaye quand même de se montrer un peu plus imposant, un peu plus revanchard. On verra aussi à la fin de l'émission, mais bon, il est quand même bien handicapé par le booking général hein, qui fait passer quand même pour un clown. Ouais.
Même sur le début, hein, ce que tu dis, c'était ta raison, ça, le premier segment d'ouverture dont on parlait juste avant, l'attitude d'Owens c'était plus vindicative, plus on s'en fout de Goldberg, on s'en fout d'où il était il y a 10 ans, on s'en fout d'où t'as passé tes vacances. Il était un peu plus imposé que d'habitude, donc c'est bien de le revoir avec un peu plus de rien. Après le match était pas mal, hein, mais comme tu l'as dit, on l'a déjà vu plein de fois et on tourne sur les 4 mêmes en main event depuis longtemps.
Non mais j'ai trouvé Rollins vraiment bien dans ce match. Enfin, je veux dire tout ce qu'il a fait était vraiment cool. Et il n'y a pas eu alors il était court, mais il n'y a pas eu de temps mort. Donc j'ai trouvé le match vraiment sympa à regarder. Après l'embêtant c'est que Rollins il a rien fait dans ce Monday Night Raw quoi. Enfin, il était juste
c'est pour un moi problème,
il était,
ça.
Il était genre absent mais juste. Ouais. Sa quête au Triple H, c'est genre quand il veut, quoi. C'est une semaine et il s'arrête, et puis il fait bon, vous m'appelez si j'ai un match, mais sinon j'ai rien à dire. C'est juste.
Là, il était transparent, c'est clair.
Franchement, comme t'as une storyline écrite sur un timbre-poste, tu fais le tour assez rapidement de ce que t'as à dire au micro, donc. Mais bref.
Voilà, donc un match pas mauvais hein, quand même dans l'ensemble.
Ah
une réaction un peu bizarre de Kevin Owens quand même. Ouais. Bon, on va enchaîner sur le gros morceau de la soirée, un Last Man Standing match entre Sami Zayn et Braun Strowman.
Ah,
voilà, donc Sami Zayn, hein, il a gagné le ticket pour un match puisqu'il a survécu 10 minutes hein, pendant le dernier pay-per-view face à Braun Strowman. Et puis bah, Strowman, il voulait pas en rester là, il a tout cassé la semaine dernière et on lui a octroyé donc ce match Last Man Standing. Sami Zayn arrive avec un beau coquard à l'œil gauche, je crois. Donc on nous explique ouais. que c'est dû à l'altercation de la semaine dernière, mais je pense pas trop vu qu'ils sont. Ça a duré à peu près 30 secondes. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, Last Man Standing match. Hein, donc, il faut assommer son adversaire et qui reste KO pendant 10 secondes. Ça démarre assez fort avec Sami Zayn qui envoie des bonnes pêches en esquivant les attaques de Strowman et qui répond avec des petits coups de poing. Et après, comme tout bon face, Sami Zayn va rapidement aller chercher un kendo stick sous le ring pour mettre de violents coups à Braun Strowman qui sera lacéré de partout. Grosse trash sur le corps. Alors le match est très violent. Hein. Ils vont aller s'affronter à l'extérieur. On va s'envoyer dans les poteaux. On va même aller dans les coulisses. Il y a des coups de kendo stick, donc des coups de chaise, des coups de valise, là, coups de Samsonite. On s'envoie des valises à la tronche. On va aller se battre jusque sur la plateforme là, à côté des commentateurs, hein, juste à la sortie de des coulisses. Et un springboard depuis la plateforme va. Un crossbody de Sami Zayn sur Braun Strowman va faire dégringoler le géant en bas de la plateforme à travers des tables. Un gros spot, assez violent. Là on pense que c'en est fini de Strowman, mais le monstre arrive à se relever. On va retourner tout doucement à coup de poing dans la gueule jusqu'au ring, jusqu'aux abords du ring. Et finalement c'est Strowman qui va gagner le match en finissant de tabasser Zayn. Hein, quelques puissants running power slam, des gros coups d'assommoir.
Ah oui, non, mais il fait un slam par terre là, sur le côté du ring, putain, ultra la violence.
Violent. Ultra violent, ouais. Oh, voilà. Très, impressionnant.
Très, très, très violent. Voilà, donc au bout d'un moment, Zayn ne peut plus se relever. Le compte de 10, victoire de Strowman. Foley qui débarque avec les médecins. On va placer Zayn sur une civière. Mais avant de partir, pour bonne mesure, Strowman va revenir, va refaire tomber Sami Zayn de la civière. Il va le prendre. Il va encore une dernière fois l'écraser contre la barrière de. D'insécurité encore avec une violence inouïe. Et c'est ainsi que se termine cet affrontement, hein, tout ça sous les yeux d'un Mick Foley impuissant. Amiral, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Bah, ils ont volé le show, je trouve. Vraiment, c'était le match de la soirée, pour moi. En tout cas, les deux, nickel. C'était un des plus longs, ou le plus long, je sais plus, à part peut-être une pay-per-view, je sais pas, le match le plus long donc de Strowman. On le voit vraiment en action, et on voit qu'il s'améliore de plus en plus. Enfin, c'était juste ultra cool comme match de voir les deux qui continuent cette histoire aussi, de voir Zayn sur ce registre-là. J'ai bien aimé le fait qu'il aille justement chercher les kendo sticks, même si c'est un face, comme tu dis, mais il sait sa mise en scène, c'est pas un face con. il est pas là à sourire pour rien, donc il sait qu'il va pas arriver seul sans une petite aide matérielle qui est dans les règles, hein, donc il ne triche pas à faire tomber Strowman pendant 10 secondes, donc il y va. Donc belle combativité, des beaux spots, la violence était là, les deux hommes paraissent très forts à la sortie. Strowman évidemment plus fort, mais Zayn n'a pas démérité. Donc je trouve que c'était ce truc-là est pourtant je trouve bien mené quoi. Je sais pas après, il faut que ça soit suivi pour Sami Zayn. Strowman, on va le voir, il va être amené à monter assez vite, je pense, dans la carte. Donc j'espère que Zayn va pas être laissé sur le bas-côté, mais en tout cas, ce qu'ils vont faire ce soir, c'était très cool. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Hank, mais.
Eh ben, ce match vaut des points. Il vaut au moins 2 points, je dirais, sur ma prochaine note. Non mais vraiment il était excellent ce match. C'est le match que je voulais voir presque en pay-per-view quoi.
Ouais c'est ça, quand tu vois leur standing du dernier pay-per-view et celui-ci avec un peu plus de temps ou une scène un peu plus grosse, ça aurait encore été plus énorme, mais déjà c'était génial hein, mais...
Ouais, moi j'ai adoré le fait que Sami Zayn se repose pas sur son catch qui peut être impressionnant, etc., mais qui est pas, justement, l'histoire, c'est que son catch est pas suffisant pour battre Strowman. J'ai bien aimé le fait qu'il ait caché un kendo stick, là. À un moment, il chope un deuxième kendo stick et tu vois que, genre, il savait l'emplacement. C'est, t'as l'impression qu'il avait, bah, justement, pour une fois que les commentaires étaient cohérent, enfin pas cohérent, mais il suivait vraiment ce qui se passait dans le match. Je sais pas si c'est Corey Graves ou Michael Cole qui dit on voit que Sami Zayn a un plan en tête dès le début parce qu'il esquive les attaques au lieu d'essayer de le faire tomber dès le début. Donc voilà, la séquence d'esquive au début, ensuite il va choper les kendo sticks, ensuite on passe aux chaises. Dans les coulisses, le bordel, Strowman qui balance une caisse de matériel. Bon, il y a rien dedans, mais c'est les énormes caisses qu'ils utilisent pour le matos pour le montage des scènes et tout ça. Donc du coup, là, voilà, encore une fois, on montre que Strowman, il est fort. Hein, il balance des énormes caisses à 5 mètres sur Sami Zayn qui est dans un coin comme ça à essayer de se protéger. Non, vraiment, c'était excellent. Le spot de la table, bon, on oublie totalement que le fait qu'il y ait une table à cet endroit-là n'a aucun sens. Mais j'y ai repensé là quand tu racontais le match, j'ai fait non mais ça a vraiment aucun sens qu'il y ait une table à droite de l'entrée.
Non mais soyons clairs, tout ce qu'il y a autour du ring et sous le ring n'a aucun sens d'être là et c'est pas grave. Ça fait partie des choses qu'il faut accepter dans le catch.
Mais voilà, et je rappelle Strowman, mon rookie de l'année 2016.
Donc, oui.
Suivez-le.
D'ailleurs, est-ce que vous pensez du coup qu'il a gagné son ticket pour le main event après cette performance là?
Ah bah faut en discuter à la fin de.
Pas de suite parce que du coup il peut pas. Enfin, il est contre Sami Zayn, donc ça marche pas pour l'instant. Je suis pas persuadé qu'ils vont arrêter le truc avec Sami Zayn. Je pense que ça va encore y avoir un ou deux matchs. Hein. Je pense qu'ils veulent finir ça sur un pay-per-view justement.
Peut-être, mais pour moi, WrestleMania, il sera sur un match de plus haute envergure. Ça c'est clair. Donc là, dans l'espace, on a dit 3 mois, parce que WrestleMania, c'est dans 3 mois. Hein. Dans 3 mois, il sera placé sur la carte, là, WrestleMania, plus haut que ce qu'il est aujourd'hui à Raw, je pense.
Ouais, il a montré qu'il pouvait tenir un match, quoi. Un gros match.
Ouais, c'était propre. Il n'y avait pas... Alors, j'ai lu sur Internet, il y a des gens qui se plaignent que, genre, il ne scelle pas beaucoup et machin, etc. Bon, c'est un géant de 2 mètres, quoi. Enfin, je veux dire, tu tapes dans... Enfin, t'as un coton-tige rouquin devant toi. Les coups qu'il va te donner, tu vas pas les sceller comme si t'avais Big Show devant toi. Quoi. Donc
c'est
du
ça.
Coup,
en plus, il faut pas oublier que Sami Zayn est loin d'être un gringalet, quoi. Hein, donc, et on voit la différence.
Oui.
Entre les deux,
je dire,
Strowman est vraiment un monstre, quoi.
Je voulais dire du moins un coton-tige quand tu regardes les deux en même temps, quoi.
Ah oui. Tout à fait. Donc oui, qui ressentent moins les coups que les autres, pourquoi pas, quoi. Ça fait peut-être partie du personnage. Attendez, on est bien prêt à avaler l'Undertaker. On peut peut-être avaler le fait de seconde que Strowman, il a une basse sensibilité à douleur, il en casse fort, quoi.
J'avale plus ça qu'un match qui va suivre féminin, par exemple.
Ah oui. Je vois bien. Que tu parles.
Enchaînement parfait, parce que justement, après ce déluge de violence, hein, moi je voulais attaquer avec les filles.
Un peu de ça.
Donc, on va se retrouver dans les coulisses avec Stéphanie Beckman qui reçoit la visite de Bailey. Alors, il y a une petite discussion entre elles où on apprend que Stéphanie Beckman, en fait, elle a jamais voulu de Bailey dans le roster. C'est Mick Foley qui a poussé pour qu'elle soit admise. Parce que voilà, elle considère que Charlotte, voilà, c'est la fille Flair, c'est la superstar du roster. Elle est née dans le métier, elle a une classe supérieure, alors que Bailey, c'est juste Bailey et rien de plus. Ce à quoi Bailey répond que oui, effectivement, comme Stéphanie ou comme Charlotte, elle a pas grandi dans le métier. Mais elle est juste Bailey, ça marche dans les deux sens, quoi, si vous voulez. Et on apprend que ce soir, pour que Bailey puisse avoir son match face à Charlotte, il va y encore avoir une épreuve à passer. Un number one contender match face à nul autre que Nia Jax. Et donc, on a un match qui oppose les deux avec Charlotte au commentaire. Alors le match, c'est une grosse domination de Nia Jax. Donc à part des bear hug, hein, des Samoan drop, des descentes de la cuisse, mais Nia Jax, elle est distraite par l'arrivée surprise de Sasha Banks et elle se laisse piéger dans un Bailey to Bailey depuis la troisième corde, hein, parce que Nia Jax était montée dans le coin du ring pour faire un écrasement final sur Bailey. Comme Sasha Banks arrive avec sa musique, elle perd un peu de temps à regarder Sasha Banks arriver. Bailey en profite, elle l'attrape, la place dans le Bailey to Bailey et l'écrase au sol. 1, 2, 3, victoire de Bailey. Voilà, c'est un peu rapide, mais qu'est-ce que t'as pensé du coup alors de cet affrontement?
Alors, l'affrontement, ça allait jusqu'au finish. je voulais pas voir Nia Jax tout court, en fait. Contre Bailey maintenant. Je veux pas voir Nia Jax utilisée. Elle est trop importante, Nia Jax, pour la sacrifier sur une juste pour dire la petite marche que t'as montée pour arriver au match pour la ceinture, bah c'est juste Nia Jax. Ah bah tu l'as battu, bon moi c'est bon. Non mais c'est Nia Jax, tu la bats pas comme ça en 5 minutes. Bon, après les gens ont peut-être pas vu leur match à NXT, mais c'était autre chose, quoi. C'était la vraie Nia Jax, c'est-à-dire que tu peux pas battre une fille qui fait je pense une centaine de kilos en genre 5 minutes et avec une distraction digne de toutes les distractions pourries qu'on a eues ces dernières années oh merde, il y a un mec devant le Titan Throne, oh flûte, j'ai perdu. Non mais c'est juste, c'est pas, ouais, non, c'est pas possible, pire, quoi. Mais c'est en plus, pire. Un belly to belly comme ça, enfin, je sais pas. Il n'y a pas eu assez d'offense, enfin, d'offense, d'attaque sur Nia Jax dans le match pour que je croie que, avec une petite séquence d'attaque de Bailey et un Bailey to Bailey, c'est bon, c'est plié, quoi. C'est pour ma plus grosse critique du match, c'est que ils ont brisé, ils ont amenui la valeur de Nia Jax juste pour faire monter Bailey dans un match pour la ceinture qu'elle va peut-être pas forcément gagner d'ailleurs, mais alors qu'il y avait juste plein d'autres façons de le faire, plein d'autres, et vous avez juste entre guillemets tué la plus prometteuse juste après Bailey, en fait. Juste après Bailey, Charlotte, Sasha Banks, bah pour moi c'est Nia Jax. Arrow. Donc
je suis pas aussi pessimiste que toi, parce que même si effectivement la ruse utilisée pour la faire perdre donc est naze.
Elle passe pour une idiote quand même.
Voilà. Après Le belly to belly est appliqué depuis donc le poteau de la troisième corde. Donc on sait que dans la mythologie de WWE, quand on fait les finisher moves depuis une hauteur, ça a plus d'impact. Donc on peut dire que c'est un belly to belly plus plus. Et quelque part dans 2 mois, on se rappellera juste qu'à mon nez, il y a Sasha Banks qui est intervenu sur un match qui a fait perdre Nia Jax. Mais voilà, je pense pas que c'est à la menuise parce qu'en fait, comme tu dis au début, Nia Jax c'est juste une marche à battre pour aller au titre, mais on peut voir l'inverse aussi. Nia Jax, Bayley n'est qu'une marche à vaincre pour aller au titre. Alors bien sûr, c'est Bayley qui gagne au final, mais c'est reconnaître aussi que Nia Jax peut être une first contender. Donc du fait qu'il fasse intervenir Sasha Banks, même si le procédé était foireux, c'est pour préserver un petit peu Nia Jax justement. Elle a pas perdu clean, elle a perdu
après... intervention. Nia Jax aussi, elle s'est tapée que du squash quoi. Toute seule.
Jobber. Voilà. Et encore, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais c'était à NXT. Elle avait un match de championnat contre Asuka au Japon. Match où on donnait un bon quart d'heure. Le match était fabuleux, quoi. Et Nia Jax, elle avait été ultra violente. Elle s'en est pris plein la poire parce qu'Asuka aussi a pâté dans son reste. Donc, c'est clairement pas du tout la même performeuse, le même personnage qu'on peut observer à ce rôle-là, vu les 5 minutes qui leur ont été données. C'est clair. Ouais. Elle paraît beaucoup plus faible que ce qu'elle ne l'est.
Je suis content. Très faible. Ouais, je suis content pour Bayley. Bah après, franchement, personne n'aurait imaginé quelqu'un d'autre comme à la suite de Sasha Banks. Hein. Il n'y avait pas de suspense, quoi.
C'est ça. Même si je trouve que Bayley tarde à nous donner un bon match en main roster. J'en ai pas un qui me vient à mémoire. Tous ces matchs étaient bof, quoi.
Ah, elle va cartonner en pay-per-view. Hein.
J'espère.
Il n'y a pas assez de monde en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas assez de monde. Elle n'a pas assez de catcheuse contre elle pour. Et quand elle a une catcheuse contre elle, ils lui foutent Dana Brooke. Donc bon.
À moins qu'il ait un gros match contre Charlotte Arrow aussi. Mais là, le problème aussi, c'est clairement le match est trop court. C'est difficile de faire quelque chose d'épique sur un temps aussi court au final. Ils auraient pu leur allouer un peu plus de temps, je pense.
Ouais, puis je veux dire quand Bayley, faut se rappeler quand même que quand Bayley a battu Nia Jax en pay-per-view à NXT, c'était un gros match et c'était un exploit quoi. C'était vraiment
épique. C'était la même chose à NXT là, le match au Japon, je l'ai vu aussi. Elle a dû tout donner Asuka pour battre Nia Jax. Hein. Ouais. Mais ça, ils leur ont alloué plus de temps.
À chaque fois, ils bookent ça comme David contre Goliath. Hein, quand ils mettent quelqu'un face à Nia Jax, une face face à Nia Jax, c'est forcément un peu souvent le même scénario qui se déroule. Mais il faut du temps pour qu'ils se développent ce scénario sur un match. Et là, elles n'avaient pas le temps. C'est dommage.
Non, mais moi, je dis qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui.
Peut-être. Booster est un peu sec.
Emma Lina.
Elle passera bientôt. Elle arrive.
Non, je refuse de parler encore une fois d'Emma Lina tant qu'elle ne se pointe pas réellement là, parce que ça suffit. Limite, on va recevoir chacun chez nous une carte de vœux d'Emma Lina qu'on n'aura pas vu à Rouen encore. Quoi. C'est n'importe quoi.
Alors d'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, hein, c'est annoncé dans l'émission, on aura le retour de Shawn Michaels et de l'Undertaker. Donc ils reviendront avant Emma. Quand même fortiche.
Ouais c'est grosse annonce quand même là pour la semaine prochaine. Alors est-ce que d'après vous c'est parce que SmackDown a battu justement, comme tu disais Ringside dans le segment de début, Raw sur les audiences américaines pour la première fois la semaine dernière, est-ce que c'est pour ça qu'ils balancent des gros noms chez Michaels et Undertaker pour faire remonter un peu les audiences? Vous pensez que c'est ça ou pas?
Il y a le football en face aussi je crois, il y a la finale du... Je crois du truc des. Comment on appelle ça là, le football universitaire, je crois. Donc ils sont obligés de booster un peu le programme.
J'ai cru que t'allais dire tu crois que l'Undertaker va à Raw parce que SmackDown a battu Raw à Survivor Series.
ça serait génial qu'ils viennent pour se la raconter, ceci dit. Hein.
C'est une belle récompense.
Vous êtes tous des gros nazes. Voilà. C'est pas marrant parce que je sais pas ce qu'ils vont lui faire, Undertaker. C'est bizarre qu'il fasse revenir à Raw justement parce qu'il a été débarqué à SmackDown pour dire. Ma nouvelle maison, c'est SmackDown.
Le truc
nouvelle, et donc il revient.
Le truc le plus courant que j'ai vu sur internet, c'est juste au Rumble, quoi. Ils vont le mettre dans le Rumble.
Ouais, c'est naze.
Ils pourraient le faire. À moins que sur le Rumble, c'est que Raw. Il y a SmackDown aussi dedans ou pas? l'instant, on ne sait pas ceux qui
sont
annoncés,
le Rumble,
c'est Gabriel Bando.
On sait qu'il y aura un match SmackDown au moins pour le Rumble. Enfin, il y aura des matchs. Le Royal Rumble sera un pay-per-view partagé. Maintenant, le Royal Rumble match, je ne sais pas encore si ça va mélanger des stars de l'un de l'autre. En même temps, s'il faut 30 mecs, je ne sais pas si dans le roster de Raw, si on enlève ceux qui ont des matchs en individuel ou en équipe. Ouais.
Mais non, parce qu'à la fin,
pas,
tu
mets des mecs. Hein.
Ouais.
Donc non, le Royal Rumble match sera un mix de gens de Raw et SmackDown, ça me paraît évident. Par contre, on ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire mais qu'il gagne, il gagne title shot contre le titre majeur.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est que le gagnant du Rumble, il va être contre l'Universal champion.
Le championnat de AJ Styles. Ça dépend. S'il est de SmackDown, peut-être qu'il y aura un match contre Styles. S'il est de Raw, il y aura un match contre l'Universal champion.
Parce ouais, que Goldberg, il a l'air de. Bon, je spoil. Mais bref. Vas-y.
Sur l'Universal Championship. Ouais,
et sinon, Shawn Michaels, lui, revient parce qu'il y a aussi un film qui sort, un film de du studio WWE hein, qui sort. Donc, il vient aussi faire la pub, je pense. Ouais. Et peut-être gonfler un peu les ratings, c'est sûr.
Peut-être une confrontation avec Rollins pour essayer de débusquer Triple H. Qui est le meilleur ami de Shawn Michaels.
Eh ben ça serait bien ça. Ça serait bien, ça ferait.
Je pense que c'est un peu trop malin. C'est un peu trop malin pour eux. Je pense que c'est.
Alors. Bon, on va enchaîner sur encore une belle nouveauté cette semaine. Roman Reigns donc affronte Chris Jericho pour le championnat US. Alors il y a quand même de beaux mouvements hein, dans le match. On a notamment à un moment donné un Superman Punch qui est porté par Roman Reigns de l'extérieur du ring sur le tablier du ring et qui est contré par un Springboard Dropkick. Alors il se fait contrer en milieu du mouvement là, c'était assez assez spectaculaire. Roman Reigns il va se manger le poteau aussi d'une manière assez violente à l'extérieur du ring. Donc le match hein, c'est un classique Chris Jericho Roman Reigns hein, on a vu ça assez souvent maintenant, ça fonctionne bien, il y a de l'alchimie et ça va se terminer par une petite pirouette scénaristique puisque Chris Jericho va aller enlever la protection du ring dans un coin du ring, ce que va voir l'arbitre, donc l'arbitre va aller remettre la protection dans le coin du ring et pendant ce temps Jericho il va nous faire la Eddie Guerrero spéciale, il va aller chercher la ceinture. On va croire qu'il va aller mettre un coup de ceinture à Roman Reigns, mais finalement non, il jette la ceinture dans les mains de Reigns, il tombe au sol, il appelle l'arbitre en même temps, et donc il fait croire qu'il s'est fait assommer par la ceinture. Mais bon, comme c'est Roman Reigns, l'arbitre ne le disqualifie pas, hein, même ça marche pas sur lui. Donc qu'à cela ne tienne, hein, ça discute, Y2J il en profite pour placer un code breaker, donc là on se dit qu'il a match gagné, mais c'est pas le cas, Roman Reigns se relève évidemment, et un peu plus tard dans le match, donc Y2J il va se manger le coin du ring qu'il avait découvert, et il se mange un spear, et donc le match se termine évidemment sur la victoire de Roman Reigns, une victoire de trop pour toi, mon bon Hank?
Je sais pas si c'est une victoire de trop, mais c'est une victoire qui sert à rien parce que on sait très bien qu'il va le perdre avant le pay-per-view. Enfin, qu'il va perdre la ceinture avant le pay-per-view, on sait pas quand, mais je veux dire, ça paraît complètement évident. Et surtout, mais il y avait. Pourquoi, je comprends pas pourquoi le match s'arrête pas justement sur cette petite. C'était idéal, cette petite filouterie de Jericho, ce truc avec la ceinture. Voilà, n'importe qui à la WWE se retrouve dans la situation de Roman Reigns, là, il se fait directement disqualifier. Genre, les arbitres sont normalement cons comme des bites. Normalement, les arbitres
c'est ça.
Font toujours genre « Oh, dis donc, ben dis donc, t'as le poignard dans la cuisine, c'est comme le Cluedo, quoi. » Donc, du coup... là voilà, c'était un petit peu t'imaginais un petit peu comme, enfin moi j'imaginais un petit peu Roman Reigns pareil genre en excès de vitesse sur le bord de la route et genre un flic l'arrête et fait ah mais vous êtes Roman Reigns, oh non c'est bon
ça passe
donc voilà, c'est.
Il a le pass de Vince en fait. C'est bon, il a le pass de Vince. c'est juste de Vince, donc c'est bon, il a droit à tout.
Je suis très fan de votre. Je suis très fan de votre boulot. très fan de votre travail. Donc voilà. C'est une occasion totalement ratée. Ça sert à rien parce que on sait déjà que Roman Reigns est un top, une top star, top face, top tout ce que tu veux. Donc du coup, qui gagne contre Jericho, ça sert à rien. Par contre, que Jericho ait la ceinture, là, ça aurait été, pardon, ça aurait été drôle et ça aurait été, ça aurait ouvert vers quelque chose d'intéressant. Après, il y a toujours ces histoires de Jericho qui doit partir, je sais pas quand tourner, machin. Donc c'est j'arrive plus à suivre maintenant hein, les tournées de Fozzy qui sont prévues, les enregistrements d'albums.
Ouais, ça doit pas marcher si fort que ça, je pense.
ouais, coup,
c'est
ça
reporté, et puis voilà.
Ça a son petit public. Hein. Par contre, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Moi, j'ai déjà écouté un album de Fozzy. Ouais. C'est pas bon. Hein.
On peut pas être bon dans tout.
Ils ont une reprise. Ils ont fait une reprise d'ABBA, quoi, de SOS, je crois.
Et c'est ça.
Horrible. Horrible. Ouais. Vas-y,
comme le booking de ce match, hein, je suis d'accord avec toi, je vais pas refaire l'histoire. C'est exaspérant, j'ai envie de choper le mec qui écrit la storyline de Reigns, et l'attacher à une chaise et lui faire subir ce qu'il nous fait subir semaine après semaine. C'est débile. En plus que voilà, l'occasion manquée, comme tu dis, suite à Jericho qui feint la blessure de la ceinture. Pourquoi ne pas arrêter le match comme ça? Ça en plus ça fait tellement penser à des choses qui se faisaient beaucoup, à l'attitude d'Era, justement. Ce côté un peu comique-ilesque qui manque à Stéphane. Puis j'aurais bien vu Jericho avec la ceinture américaine. Il aurait fait le Championship of Jericho.
Et puis ça. Désolé de te couper, mais en plus, ça touche pas la valeur ou la réputation de Reigns, tout ça, quoi. Je veux dire, si Jericho il gagne en trichant, et bah voilà, il a gagné la ceinture, il a gagné en trichant, donc du coup, ça a pas autant de valeur qu'un Reigns qui gagne clean. Donc voilà, tout aurait été très bien à sa place, quoi. Alors que là, ouais. on a toujours un Reigns avec une ceinture dont il a rien à foutre, là. C'est juste.
Puis en plus, ça aurait été super de voir un match en pay-per-view, Jericho champion américain, avec Kevin Owens champion des Universal, en handicap match contre Roman Reigns. Roman Reigns aurait gagné, les aurait battu tous les deux, ça aurait été horrible. ça aurait pu arriver un truc comme ça. Non, mais c'est
ouais,
vrai
ou bah, peut-être la semaine prochaine, on sait pas.
Oh, non, on parle pas de malheur.
Mais ouais, bah là on est un peu dans le booking pour la soirée, quoi. C'est l'histoire de ce Raw de ce soir-là où Roman Reigns doit être le grand gagnant. Donc il y a ce match-là qui est un peu. Tout est fait pour qu'il perde, mais finalement il gagne quand même. Et puis.
Et ce qui est stupide aussi, c'est qu'il n'y a pas cette Rollins.
Il n'y a pas cette Rollins non plus.
Il y a ce match en début de show. Stipulation, le perdant entre Owens et Rollins ne pourra pas être aux abords du ring, qui suppose, évidemment Owens on savait qu'il allait y être s'il gagnait, mais qui suppose aussi peut-être à mon nez pour l'histoire, que Rollins soit dans le coin au moins, ou qu'il daigne avoir un intérêt sur le match.
Et puis alors les gens qui comptent sur le fait que ensuite on rappelle le fait que Rollins n'est pas allé aider Reigns, ou alors que Reigns lui reproche de ne pas être venu l'aider ou machin, etc. C'est non. N'espérez pas. N'espérez pas qu'on vous rappelle ça. Parce que de toute façon, Reigns, il en a rien à battre. Il gagne tout le temps avec ou sans personne.
C'est étonnant qu'il n'ait pas les deux ceintures d'ailleurs. US et Universal depuis le temps. Parce que je sais pas depuis quand il n'a pas perdu un match. Quoi.
Ça fait un petit bail. Mais sinon, un truc aussi auquel je manquais, ce qui aurait été rigolo, c'est que. À un moment donné, le combat aille pas loin du public, hein, et qu'il y a un mec dans le public qui attrape Roman Reigns, et c'est Kevin Owens avec un masque de Sin Cara. Ça aurait pu être très fun. En référence au pay-per-view, enfin, match où c'était Jericho qui l'avait fait.
C'est vrai.
Moi, j'aurais beaucoup aimé voir ça.
Mais d'ailleurs, du coup, ça aurait été sympa de voir une vraie rivalité Chris Jericho-Roman Reigns, parce qu'ils font quand même des bons matchs au final. Je sais pas, autour du titre universel dans un truc un peu plus enlevé, il y avait de quoi faire. Hein. Mais bon, on verra tout ça pour la suite les semaines prochaines. Et on va entamer le Jobber's World, votre séquence préférée. Jobber's World. La musique arrive. Tout est là, tout le monde est en place. Le New Day, on a Xavier Woods qui bat Titus O'Neil, sachant que Titus O'Neil voulait intégrer le New Day, hein, donc il fait un peu un entretien d'embauche, hein, il montre qu'il sait danser, qu'il sait siffler, mais le reste du New Day n'est pas convaincu, il se fout de sa gueule, il dit écoute, tu crois vraiment que les gens le matin, ils ont envie de voir ta gueule sur des boîtes de céréales, à la limite sur au dos des cartons de lait, hein, comme personne disparue. Ça fonctionnerait, mais sinon, c'est pas possible.
C'est méchant.
C'est méchant à fond, hein. Et donc, Titus se dit, parce que c'est Xavier Woods qui lui dit ça, hein, donc il lui dit, toi, t'es le maillon faible du New Day, hein, je te trouve, bien bravache, je sais pas si ça se dit, de me dire ça. Et puis donc, ils ont un match, et puis Xavier Woods gagne le match, hein, sur un roll-up. Cesaro perd contre Karl Anderson. Il y avait Sheamus au commentaire d'un côté et de l'autre Gallows, le compagnon d'Anderson, Luke Gallows, voilà, je trouvais plus son prénom, qui était aux abords du ring.
T'es méchant, c'est pas un Jobbers match quand même ça.
C'est pas très long, il se passe pas grand chose. Hein. Sheamus obligé de revenir aux abords du ring pour empêcher l'intervention de Luke Gallows. Mais du coup, il tape dans les cordes pendant que Cesaro est en train de porter un superplex depuis le coin du ring, et du coup, Cesaro tombe. Anderson réussit à placer un springboard neckbreaker pour la victoire. Bon, il y a eu quelques beaux mouvements, hein, dans le match. Hein,
moi, j'ai bien aimé ce match. Moi, j'ai trouvé que c'était un des vraiment bons matchs de la soirée.
Ouais. Il y a un springboard crossbody là où il prend appui sur une corde, puis après sur l'autre pour porter un crossbody renversé là, Cesaro, c'est assez phénoménal. Bon, j'ai mis ça dans le Jobber's World, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine de cette rivalité là, il y aura peut-être plus à dire. Et ensuite on a nos amis les Cruisers, Cédric Alexander, Calicia Fox toujours, qui croise Noam Dar dans les vestiaires. Noam Dar vient s'excuser, puis après, en fait, c'est des fausses excuses. Il traite Alicia Fox de petite poulette. Encore une défaite d'Alexander sur roll-up, après une distraction où il y a une altercation entre Tony Nese, qui était à l'extérieur du ring, et Alicia Fox. Tout ça est passionnant. Brian Kendrick perd face à TJ Perkins. Donc TJ Perkins est un champion cruiserweight. Les deux sont anciens champions cruiserweight en fait. Lunettes, dab, et donc victoire de TJ Perkins avec sa clé de genou.
Le bon vieux 50-50 booking.
Ouais, voilà, c'est des matchs qui sont très très courts. Hein, ça va durer 5 minutes à être cassé. Et on a Big Cass, accompagné de Enzo, qui est toujours sur chaise roulante, hein, suite à la dernière agression qu'il a reçue par Rousseff et Jinder Mahal. Donc Big Cass dans un handicap match contre Rousseff et Jinder Mahal, justement. Donc Big Cass, c'est pas encore Roman Reigns, hein, donc il perd suite à un violent Inzugiri de Rousseff. Il a pris une petite distraction à l'extérieur, Jinder Mahal était venu mettre une petite baffe à Enzo. Donc ça, c'est pareil, je pense qu'on aura le temps d'en reparler.
Ouais, c'est pas sûr.
Ça va peut-être rester dans le Jobber's World pendant un moment. En tout cas, Jinder Mahal, il faut qu'il fasse attention à sa santé quand même. On voit un peu qu'il utilise des produits qui ne doivent pas être très, très légaux, hein, doublé de volume. Alors voilà, ça c'était le Jobber's World. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur tout ça encore ou pas du tout?
Bah, y avait Gallagher aussi avec les New Day.
Ah oui, il y avait un entraînement de parapluie.
Exactement, le combat au parapluie, donc ça c'était... ça a l'air super con, mais c'était fun de voir un cruiser, tout un segment avec des mecs du même roster qui étaient champions par équipe il y a pas longtemps. Donc, ça,
c'était une référence au duel de 205 Live qu'il a eu avec... c'était avec qui déjà? C'était avec...
Daivari.
Ouais. Mais ils ont montré un petit extrait d'ailleurs. Montage que j'ai vu, donc ouais, qui était assez fun visiblement comme affrontement, donc ça c'est bien, je pense que ça, voilà, ce truc que je retiendrai, c'est ça, c'est avoir dans un segment mixé un mec des cruiserweights qui peut-être a le bon fou pour être un face comedy wrestling plutôt sympa, donc à voir.
Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas arrivé depuis le début qu'ils sont arrivés à Raw, tiens, un segment qui les mélange.
Ouais.
Moi j'ai pas souvenir, sauf avec l'arrivée de Neville évidemment, mais
oui,
ouais, non, ça c'était, c'est vrai que c'était rigolo pour le coup. Alors, on nous annonce aussi dans l'émission hein, le tournoi en Angleterre, hein, qui, avec les catcheurs anglais.
Qui se ressemblent tous.
Qui se ressemblent tous, hein, pour une bonne partie.
ils ont mis tous le même costard.
C'est du racisme envers les Anglais, ça.
Mais, non, mais juste pour revenir sur Cesaro Sheamus, par contre, je trouve ça vraiment dommage de... Je dis pas qu'ils doivent être invincibles, mais là, de les faire perdre la directe à la sortie de... Ils viennent d'être champions et là Cash on dit bon vous avez une rivalité avec Gallows et Anderson et puis bon pour faire gagner Gallows et Anderson bah vous allez rejouer le coup de la tag team dysfonctionnelle alors que c'était censé être fini. Bon là c'est par inadvertance mais bon.
Ouais, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait au début on nous vend l'histoire que c'est deux mecs forts mais on essaie de les mettre ensemble mais ensemble ça marche pas. Puis finalement ils arrivent à s'accorder et ils gagnent les titres. Là l'histoire intéressante à raconter c'est de leur montrer qu'ils sont plus forts ensemble qu'ils ne sont individuellement. Donc les faire passer dans des matchs face à leur adversaire par équipe, ils vont avoir un match contre le club donc il n'y a pas de problème. Mais les faire des matchs individuels et qu'ils perdent individuellement pour qu'au final ils gagnent lorsqu'ils sont par équipe. Je trouve que c'est pas
ouais,
mal
c'est pas faux. Non, c'est pas faux, ouais. Mmh.
Voilà. Ça permet de monter. Si vous verrez là, je trouve ça cool.
Ça permet de monter un peu le Gallows et Anderson, de montrer ouais, un peu voilà, plus costaud vu qu'ils ont quand même enchaîné pas mal de défaites.
Ça fait plaisir de les voir dans un match où ils n'ont pas été ridiculisés dans le show auparavant, ni après. Donc voilà, on commence à le reprendre au sérieux après des longs mois de segments ridicules ou de matchs où ils ont été un petit peu menés par le bout du nez quoi.
Pas fait très belle impression. Oui bon ça je pense qu'on aura la revanche la semaine prochaine hein, de toute façon. On va enchaîner donc sur le main event. C'est la première édition, toute première édition du Kevin Owens Show. Donc, au milieu du ring, un décor est planté, un petit bureau pour Kevin Owens, il y a une petite chaise de camping qui est posée là pour l'inviter, et il y a un homme panneau, hein, qui a une tête de panneau,
c'est marqué
Kevin Owens Show qui est là.
Ça, j'ai détourné le regard, j'ai jamais compris qui c'était.
Ouais, oui, bah il a disparu un peu plus tard, on n'a jamais su. Voilà, c'est en tout cas quand il y a Kevin Owens qui fait son Kevin Owens Show, il y a un mec qui est payé à être poteau. Donc c'est Chris Jericho et Kevin Owens, hein, les deux sont là. Ils nous expliquent que malgré leur défaite, même de ce soir, hein, c'est pas grave, ils font quand même le main event de Raw. La team Chris et Kevin ou la team Kevin et Chris comme on veut. Kevin Owens nous fait tout un speech sur la légende de l'Attitude Era qui est l'invité de ce soir, hein, qui a redonné ses lettres de noblesse au catch, qui a redéfini la notion de grandeur. Donc on s'attend à voir Goldberg, mais au final non, il est simplement en train de nous présenter Chris Jericho, son ami. C'est Chris Jericho qui prend la parole comme si c'était lui l'invité. Il nous explique que voilà, il est énervé par les chants pour Goldberg et vous savez ce qui se passe quand on chante Goldberg. You just made the list, hein. Il nous fait un vrai classique pour tout le public et il nous annonce une breaking news, grosse nouvelle. Il sera le troisième entrant au Royal Rumble. Chris Jericho, troisième ajouté au... Parce que pas de troisième entrant forcément, je pense pas que c'est un troisième, mais c'est le troisième annoncé dans le Royal Rumble match, en tout cas. Alors Kevin Owens, bizarrement, il est pas très content, hein, il explique que, qu'est-ce qui va se passer si tu gagnes, on sera obligé de s'affronter à WrestleMania. Chris Jericho explique, oui, c'est génial, voilà, si je gagne, on sera quand même champion, c'est gagnant-gagnant, y a pas de souci. Kevin Owens n'a pas l'air très convaincu et c'est là que quand même l'invité de ce soir arrive, Goldberg, avec donc son arrivée hein, qui vient des coulisses jusqu'à l'entrée du ring. Donc il arrive, il est remonté à bloc, il explique que Y2J dans le Rumble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Chris Jericho, t'es le premier, t'es le premier sur la liste. Kevin Owens essaie de calmer tout le monde hein, parce que ça commence à se confronter un peu de manière un peu masculine et il propose une chaise à Goldberg, donc c'est la chaise de camping un peu ridicule. Donc Goldberg il prend la chaise, il la balance directement. Kevin Owens ne s'en laisse pas décompter, il n'est pas impressionné, il balance le reste du décor lui-même, tu vois, voilà, regarde-moi ce que je peux le faire aussi, y a pas de souci. Et finalement, Goldberg nous explique que quel que soit le vainqueur au Rumble, dans le match qui opposera Reigns ou Kevin Owens, de toute façon, ils ont un rendez-vous à WrestleMania avec Goldberg, puisque c'est lui qui gagnera le Royal Rumble. Là-dessus, Paul Heyman arrive. Il nous annonce qu'il y a... C'est la surprise, un petit peu, hein. Il nous annonce qu'il y a... qu'il représente donc Brock Lesnar, qui ne sera pas là ce soir. Et il nous explique qu'à Royal Rumble, eh ben, il va venir, il va conquérir, il va éliminer, il va répéter, éliminer, répéter, éliminer, etc. Petite promo rapide de Paul Heyman. Et ensuite, c'est Roman Reigns qui débarque, tant qu'à faire. Alors lui, il explique tout de suite à Chris Jericho et Kevin Owens qu'ils sont un peu fous. Ils gagneront rien du tout à Royal Rumble, hein, ni le Royal Rumble match, ni le match pour le championnat universel. Et il dit, c'est pour ça que moi, ce soir, je suis venu te confronter toi. Et il va directement se mettre face à Goldberg. Combat de regard. Et là, arrivée de Braun Strowman, le dernier, qui débarque, qui dit tout de suite, s'il y a quelqu'un qui doit gagner le Royal Rumble, bah ce sera moi, avec sa grosse voix là. Il monte dans le ring, en confrontation entre les trois, parce que Kevin Owens, Chris Jericho, eux préfèrent quitter le ring quand Braun Strowman arrive. Et donc on a les trois qui sont là en train de se regarder. Il y a un petit coup d'œil complice entre Goldberg et Roman Reigns, et bam, double spear sur Strowman, qui encaisse, tombe par terre devant, on descend, expulsé du ring, et on se retrouve donc avec Roman Reigns et Goldberg qui font copain-copain et qui viennent célébrer avec la foule pendant que Braun Strowman a bien du mal à se relever. Voilà, c'est sur ces images que se termine ce Monday Night Raw. Amiral, qu'est-ce que t'as pensé de ce main event?
L'amiral a disparu.
L'amiral n'est plus là.
Si, si, là. Ah. Donc, ouais, le début assez fun avec le set, le mobilier humain vivant donc du Kevin Owens Show. Bon, c'est un peu bizarre qu'il lui fasse faire un show alors qu'il est en duo avec Jericho et que Jericho a le highlight reel qui est déjà implanté. On va dire que c'est anecdotique, mais c'est un peu strange. Juste une petite précision, Jericho, il rentre dans Royal Rumble, mais il y a aussi Biggie, hein, plutôt, qui a annoncé dans le segment New Day que les New Day seront dans le Royal Rumble match.
Également. C'est pas faux, oui, effectivement.
Donc voilà, pour la petite info, donc le match se remplit au fur et à mesure. Et je confirme qu'il va y avoir aussi des gens de SmackDown, puisqu'il y a déjà quelqu'un de SmackDown qui a fait son annonce qui serait dans le Rumble match, mais je ne vous dis pas qui, je ne spoil pas. Au niveau du main event, après, bon, c'était pas mal de voir tout le monde auprès du ring, ou sur le ring, avec donc du coup à la fin Goldberg, Reigns, Heyman pour Brock Lesnar. D'ailleurs, j'ai adoré comment Heyman s'était pétrifié lorsque Braun Strowman est arrivé. Il était prostré au bord de la rampe, genre ne frappez pas monsieur, ne frappez pas, comme s'il avait vu un monstre. C'était vraiment très bien joué de sa part. Après, je trouvais ça un peu arrogant que Reigns dise à Jericho et Owens, en gros, vous avez rien gagné, je n'ai rien à foutre, hein, puisque je suis le gros mec, je suis the guy, donc je vais parler à Goldberg direct, quoi. C'est pas encore comme ça qu'ils vont le faire devenir un face totalement, je pense, hein. C'est des attitudes toujours un peu limites, où là le côté trop arrogant, je trouve, passe pas très bien. Voilà. Après, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Je sais pas. On tisse peut-être un Goldberg Roman Reigns, mais difficile à dire. Tout est un peu encore ouvert. Après, dans tous les cas, c'était pas mal de voir Braun Strowman qui vient s'intégrer dans la conversation, bon, pour continuer, hein, comme on disait tout à l'heure, un peu sa montée dans la carte.
Okay, okay.
Voilà, voilà.
J'ai trouvé le segment pas forcément super excitant, dans le sens où j'avais l'impression de déjà savoir. En fait, c'est comme si on me représentait on me redit, bon, les gagnants du Royal Rumble, ce sera soit lui, soit lui, soit lui. Voilà, et c'est genre clairement, c'est clairement dit, quoi. Cette semaine, on nous a annoncé les gagnants du Rumble, ça va être soit
Lesnar, Goldberg,
Reigns, ou Reigns. Je vois pas Jericho.
Reigns, il est même pas dedans. Reigns, il a un match.
Reigns, il aura déjà la ceinture. Voilà. Mais donc, le seul moment que j'ai vraiment bien aimé, c'est le moment où Kevin Owens s'est un peu mis dans la tête de Goldberg. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où Goldberg a complètement oublié que c'était à lui de parler. Et où il a montré qu'en fait il avait pas peur de lui quoi. Et il balançait, enfin justement, t'avais, je crois Jericho qui a dit à un moment, tu sais ce que je fais aux gens qui balancent les meubles à droite à gauche, et il l'a mis aussi sur la liste. Puis après Owens a fait un peu sa démonstration de force, genre moi aussi je peux faire ça. Et du coup, on avait un truc qui, pour le coup, moi, m'intéressait plus qu'un Reigns Goldberg, parce que Owens, il avait déjà, pendant le show, attaqué Goldberg et tout ça, verbalement. Donc du coup, il y avait cette cohérence là.
Ah, moi, je préférais voir effectivement un Goldberg, un Kevin Owens, surtout en montrant ce côté plus agressif, comme on le disait au début de l'émission, de Kevin Owens qui est revenu un peu cette semaine.
Ça, ouais. Et par contre, Reigns, bah, c'est le classique. Enfin, je sais pas comment certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est juste Reigns, c'est l'enfant gâté pourri de la WWE. Le gars, il a pas encore la ceinture. Et il vient voir Goldberg et il fait ouais ça va être moi à WrestleMania et machin.
Ouais. Sachant qu'il se pointe sans sa ceinture américaine. Là il se pointe sans sa ceinture américaine.
Ouais, non, mais elle est au frigo, hein, il la sortira dans deux semaines pour la perdre. Mais c'est dommage parce que du coup celui qui va la porter aura pas d'histoire à développer avant le prochain pay-per-view pour cette ceinture. Mais bon, donc du coup voilà, pas super convaincu par le segment. Goldberg était un peu en dessous, enfin je veux dire le texte qu'on a filé à Goldberg était vraiment en dessous de ce qu'il avait ses dernières apparitions, où là déjà rien que quand il arrive et il dit vous savez ce qui va vous arriver au Rumble, enfin non pas au Rumble mais je sais plus, vous savez ce qui arrive aux gens qui m'énervent, Jackhammer Spear. Dis mais ouais c'est bon, on a compris, t'as que deux moves et tu peux faire un match que de une minute trente maxi. Tu voyais Goldberg quand même quand il a commencé sa promo, il était déjà essoufflé.
L'arrivée était déjà violente pour lui.
Il y avait bien quoi 150 mètres à faire des coulisses. Bon, puis en plus il est obligé de renifler et de souffler l'histoire de faire monter la attention. Non mais donc ouais, le segment m'a pas marqué plus que ça, et puis ça a pas construit. Si l'objectif du segment c'était de nous faire nous monter la hype sur un Goldberg Reigns, déjà je trouve que c'est déplacé parce que justement Reigns a pas encore la ceinture. Donc c'est une nouvelle fois la WWE qui nous dit bon bah le prochain pay-per-view, enfin du moins le prochain main event de pay-per-view, il sert à rien, vous savez déjà ce qui va se passer. Et du coup bah ça veut dire je sais pas, ça sape un petit peu ce qui arrive, c'est du long terme, et ça sape un petit peu ce qui doit arriver là bientôt. Donc voilà.
Pas Bah, c'est tellement emmêlé avec toutes ces intrigues, tous ces personnages, qu'effectivement ça donne un truc un petit peu tiré par les cheveux, pas trop clair. Donc l'effet, il est dilué dans tout ça, l'effet qu'ils essayent de faire ressortir sur ce segment-là, c'est assez flagrant. Hein, pour le
tu
coup.
Fais le même segment avec Reigns qui est champion. Là ça marche en fait. Si Reigns était déjà champion universel et que du coup Goldberg dit le prochain machin et voilà, ou alors il fait avec Owens. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que ce segment, si vous le regardez, vous regardez vraiment les interactions, Owens il est déjà rayé de la carte. On le voit qu'il est déjà rayé de la carte. Il n'y a pas une seule chance qu'on voit, personne ne croit à Goldberg Owens à WrestleMania quoi. Alors, et le gars est déjà en train de parler de Lesnar ou Reigns.
Oui, c'est même... pour moi, c'est pas Goldberg qui va gagner le Rumble. Hein.
Oui.
Ça, après, là, c'est l'interprétation des personnages de Reigns, finalement. Hein. C'est Reigns qui aurait de la carte, qui dit tu peux pas gagner, de toute façon. Donc, voilà. Mais sinon.
Voilà, c'était flou, et puis surtout, c'est un segment qui va au-delà, en fait, du enfin, je comprends pas pourquoi ça va au-delà du pay-per-view, enfin, où ils sont tous en train de se projeter au-delà des résultats, quoi.
La WWE aime bien teaser en avance certains matchs pour WrestleMania, surtout s'ils impliquent des grosses stars comme les Goldberg, parce que c'est quelqu'un qui revient, quoi.
Achetez votre ticket maintenant. Mais ouais.
C'est pour ça qu'on avait les Rock Cena un an à l'avance, quoi.
Ah, mais là c'était gravé dans la roche, comme dirait l'autre.
Complètement.
C'est la road to WrestleMania qui commence trop tôt, en fait. Parce que d'habitude ça démarre à partir du Rumble, qui là maintenant il démarre même avant. Donc ça je pense que ça pose problème quand même. Parce que on voit bien que même en faisant amener tout le monde dans le ring, toutes les grosses superstars, bah, ça fait pas l'effet que ça devrait. Hein. Puis il y a même pas Rollins qui vient, donc il y a
trop de conflits en cours, il y a trop d'incertitudes et de conflits en cours pour commencer à faire ce genre de choses.
Devrait boucler les storylines et puis démarrer sur des nouveaux trucs à partir du Rumble pour gonfler jusqu'à Mania. Ils ont le temps de faire ça, en vérité, ils ont toujours fait comme ça. Mais ça, c'est toujours ce booking là, trop complexe. Hein. Qu'est-ce qu'on y peut ? Pas grand chose, me direz-vous. Mais ce qu'on peut faire, c'est passer au mot de la fin.
Et oui.
Alors un top, un flop, une note. C'est parti. Hank,
je vais le voler. Je pense qu'il va être répété, voilà, c'est Zayn Braun Strowman, ou plutôt, on va dire les deux parce qu'il a pas, démérité. Sami Zayn. Donc voilà, le meilleur match de la soirée, une très très belle rencontre. J'espère que finalement, c'est le match qui me donne envie de voir une fin de feu dès que ça s'arrête pas là. Donc voilà, j'espère genre juste une victoire de Sami et ensuite Strowman qui clôture le truc. Mais voilà, très bien. Et puis le flop. Le flop, c'est la séquence de fin, finalement, je pense. C'est cette séquence où on est en train d'essayer de nous teaser des choses à droite à gauche. Y a la moitié des gens sur le ring qui semblent être au courant des résultats des prochains pay-per-view et qui passent totalement outre Owens. Limite Jericho est plus crédible en champion à WrestleMania, enfin en gagnant du Rumble, je sais pas comment dire. Non, plus crédible en prochain champion justement que Kevin Owens. Ce qui est quand même, c'est dommage quand même parce que Owens il est censé, il est quand même champion depuis maintenant un petit bail. Ça fait combien? Ça fait 2 mois, 3 mois?
C'est champion universel au règne le plus long, n'oublions pas.
Ouais, donc c'est du ça. Coup, depuis le brand split, quoi, quasiment. Donc du coup, voilà, c'est flou, c'est comme d'habitude, c'est ma même critique que j'ai sur le main event de Raw, hein, c'est toutes les semaines. Donc, espérons qu'après le Rumble, tout ça s'éclaircisse. Et ma note, donc du coup, je mets quand même un 3 parce que il y a eu des bons matchs. Moi, les deux moments qui m'ont vraiment rythmé la soirée, donc Zayn Strowman et Cesaro et c'était Anderson
ou Gallows. C'est ça.
Anderson. Je ne sais plus. Je les confonds tout le temps. Anderson. Donc voilà, les deux vraiment bons matchs. J'aurais pu aussi mettre en coup de gueule les Cruisers parce que c'était
Non, c'était faible là, hein, les Cruisers aussi. Hein. Mais le match était très très court. Amiral.
Dis-nous tout.
Mon top, c'est la même chose, hein. Donc, au pire, il met son top à Braun Strowman. Moi, je mets Sami Zayn inversement, ça marche. Voilà, le match est vraiment nickel. Donc, j'ai pas à rajouter de choses là-dessus. Mon flop, c'est Seth Rollins. Vraiment déçu de ce qu'ils en ont fait ce soir, à savoir rien. Là, ça va être compliqué parce que s'il y a seul faute qu'il va avoir, c'est celle de Triple H et qu'il va être à Mania. Bah, Mania, comme je disais, c'est 3 mois. Donc, s'il a 3 mois de quasiment rien, ça va être compliqué, donc il faut lui faire faire des trucs. Pourquoi pas, je sais pas, le faire débarquer au prochain takeover de NXT qui est fin janvier, puisque c'est le show Triple H pour venir réclamer que Triple H sorte de son silence, je sais pas, mais il faut qu'il fasse quelque chose, les scénaristes avec Seth Rollins, parce que là, ça devient ridicule. Vu le talent que c'est dommage de pas l'utiliser. Et ma note, 3 aussi. Ça me paraît un bon truc.
Principalement okay, pour le match. Ok, 3 également. Écoutez, moi mon top, ça va être aussi Zayn contre Strowman. Je vois pas où je pourrais mettre le top autrement. Le flop, ça va être pareil, le main event qui donne rien. Et puis ma note, moi j'étais un peu plus sévère, je vais mettre 2,5. Voilà, c'était moyen, il y a rien qui m'a transcendé. Pour un road cette année, enfin début d'année, voilà. Mm-hmm. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter
avant si vous voulez un nouveau Talking Catch, demandez-le dans les commentaires, hein. Spammez-nous, comme ça nous motivera.
On est à deux doigts de relancer la machine,
vraiment deux doigts. En plus, on va être abonné à Flow Slam, alors là, on va avoir des trucs à raconter et tout.
Oh là là. Enfin, pour avoir Ring déjà des indies et tout ça. Voilà. Dès que j'ai le temps regarder, je vous raconte ça. Vous verrez.
Alors, des catcheurs inconnus, on prendra des congés rien que pour les regarder, rien que pour vous. Tout ça.
Fait 4 pay-per-view par semaine.
Ça, si c'est pas de l'investissement.
Exactement. Ouais. Voilà. Bah du coup, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. Vous pouvez aussi venir sur le site des Cahiers du Catch. Inscrivez-vous, abonnez-vous aussi sur YouTube pour avoir toutes les nouvelles émissions dès qu'elles sortent. Mon bon amiral, merci d'être venu.
Eh ben de rien. Merci à vous. Et à très vite. Hein.
Hank, merci également.
Eh ben de rien, ça fut un plaisir.
Plaisir partagé, évidemment. voilà, ainsi se termine cette émission. On vous remercie beaucoup de l'avoir écouté et on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Salut.
À plus. À quand les capotes WWE? La capote Roman Reigns, elle est marquée Belly Zat, ou avec le point de Roman Reigns dessiné dans la capote. Tu vas le prendre mon Superman Bench.